VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Sénégal, le gouvernement minimise les menaces de l'ancien président Abdoulaye Wade et juge impossible de truquer les élections du 24 février.
Au Burkina Faso, plus d'un million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA.
Au Cameroun, d'ex-membres camerounais du groupe djihadiste nigérian Boko Haram sont volontairement rentrés chez eux.
Ici à Washington, le président Donald Trump doit déclarer aujourd'hui l'urgence nationale pour construire son mur à la frontière avec le Mexique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le gouvernement sénégalais a minimisé hier l'impact des appels de l'ancien président Abdoulaye Wade à empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 24 février. Le point avec Eric Manirakidza.
Rappelant que le pays a l'habitude d'organiser les élections, le ministre de l'Intérieur Ali Ngoy Ndiaye a indiqué que le Sénégal est une république qui marche. Dans ce pays-là, on ne peut pas et on ne peut plus truquer des élections à tir assuré. Le Sénégal a déjà connu deux alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État sauf les campagnes électorales souvent émaillées de violence. Revenu la semaine dernière à Dakar, Abdoulaye Wade a appelé à empêcher l'élection du 24 février qui, selon lui, est verrouillée pour assurer la reconduction de Macky Sall. Âgé de 92 ans, Monsieur Wade a convié ses partisans à brûler le matériel électoral. Il a de nouveau appelé à s'attaquer au bureau de vote. Le gouvernement condamne cette attitude permanente de subversion, d'appel à la violence, avertissant ceux qui tenteront de perturber la libre expression du suffrage et des Sénégalais qui seront punis conformément à la loi. Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'ex-président était coutumier de telles menaces. Il a rappelé qu'en 2015, Maître Wade disait qu'on n'allait pas juger son fils, que le pays allait être à feu et à sang. Son fils Karim Wade a été jugé, condamné, emprisonné et rien ne s'est passé, a précisé le ministre Ndiaye.
Au Burkina Faso, plus d'un million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA a lancé un appel d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars, Bagassi Koura.
1 200 000 personnes ont urgemment besoin d'assistance au Burkina Faso. Le pays fait face à des urgences sans précédent du fait de la persistance de l'insécurité dans les régions du centre-nord, de l'est et du nord, selon un communiqué conjoint d'OCHA et du gouvernement burkinabé. Nous devons agir maintenant et travailler ensemble pour empêcher cette crise de devenir incontrôlable, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies, Metsi Maketa. Le gouvernement et l'agence humanitaire de l'ONU ont lancé un plan d'urgence pour mobiliser 100 millions de dollars pour fournir de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé, de la protection à 900 000 personnes les plus touchées par la crise. La ministre burkinabé chargée de l'action humanitaire, Hélène-Marie Laurence Ilboudo, a lancé un appel pressant à tous les partenaires. L'insécurité croissante a déjà forcé 83 000 personnes à fuir leur maison à la suite de violentes attaques et des affrontements intercommunautaires.
Toujours au Burkina, un médecin militaire burkinabé a été tué et deux policiers blessés hier dans l'explosion d'un cadavre piégé à Djibo, chef-lieu de la province de Soum dans le nord. Selon une source sécuritaire, le médecin est décédé dans l'explosion d'un corps piégé avec un engin explosif artisanal qui avait été revêtu d'une tenue militaire et abandonné sur une route. C'est en voulant retourner le corps que l'explosion s'est produite, tuant sur le coup le médecin militaire et blessant deux autres membres de l'équipe de policiers et de militaires dépêchés sur les lieux. C'est vraisemblablement la première fois au Burkina que les djihadistes utilisent un corps humain piégé dans leurs attaques.
Près de 200 anciens membres camerounais du groupe Boko Haram sont volontairement rentrés dans leur pays depuis le Nigeria. Le point avec John Linden.
Originaire du département du Mayo-Sava dans l'extrême nord du Cameroun, 187 ex-djihadistes sont rentrés à pied du Nigeria voisin et se sont rendus aux autorités de Kolofata et Mémé. Ils ont été amenés à la base de la force mixte multinationale. La semaine dernière, environ 200 d'entre eux, dont des enfants de moins de 15 ans, avaient déjà été amenés au camp de Mora. Un millier d'anciens djihadistes sont rentrés au Cameroun depuis un appel en ce sens, lancé il y a un an par le président Paul Biya. Ils ne courent aucun danger et tout sera mis en œuvre pour les resocialiser, a déclaré Midi Yawa Bakari, gouverneur de la région. Un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion a été mis en place pour leur permettre de reprendre une vie normale. Après les enquêtes pour s'assurer qu'ils ont définitivement rompu les liens avec Boko Haram, ces ex-djihadistes seront transférés dans la localité de Mouré, dans l'extrême nord, où un terrain de 13 hectares leur a été alloué.
En Guinée-Bissau, les enseignants ont repris hier leur mouvement de grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire, et ce à un mois des élections législatives qui doivent sortir le pays d'une crise politique vieille de plusieurs années. Des détails avec Ekia Badou.
À Bissau, la capitale, les écoles publiques du primaire et du secondaire ont été fermées. Par précaution, certaines écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester à la maison. Après 4 mois de grève, 3 syndicats d'enseignants avaient interrompu leur mouvement le 9 janvier après avoir obtenu des garanties du gouvernement que les arriérés de salaire seraient payés et une nouvelle grille salariale. Ces promesses n'ont pas été tenues et les syndicats ont déposé un préavis de grève de 27 jours. Ce débrayage intervient peu avant le début, demain samedi, de la campagne pour les législatives du 10 mars censée sortir le pays de plusieurs années de crise. 20 des 21 partis politiques en lice ont signé hier un code de conduite dans lequel ils s'engagent à recourir aux voies légales pour contester les résultats et à éviter les attaques verbales ou l'utilisation de la force pendant la campagne. Pour Fodé Karamba Sania, un membre de la société civile, ce pacte ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des engagements.
Au Soudan, les manifestations antigouvernementales ont fait hier des blessés parmi les forces de l'ordre et les protestataires ont indiqué les autorités sans en préciser le nombre, la gravité ou les circonstances. Khartoum a également menacé de poursuivre les opposants pour, je cite, des appels à la violence et une atteinte à la sécurité nationale. L'association des professionnels soudanais Fer de Lance de la contestation avait la veille, dans sa première conférence de presse, appelé à la poursuite du mouvement jusqu'à la chute du régime du président Omar el-Bashir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump doit déclarer ce matin l'urgence nationale pour pouvoir contourner le Congrès et obtenir l'argent qu'il réclame pour financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Monsieur Trump justifie cette procédure exceptionnelle par ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale et humanitaire à cette frontière. Pour éviter un autre shutdown, qui est maintenant exclu, le président Trump doit cependant promulguer avant minuit le compromis budgétaire adopté hier par la Chambre des représentants et le Sénat. Ce texte ne lui donne pas les 5,7 milliards de dollars qu'il réclamait.
États-Unis toujours, William Barr a prêté serment hier en tant que nouveau attorney général ou ministre de la Justice après confirmation de sa nomination par la Chambre haute du Congrès. 54 sénateurs ont voté pour et 45 contre. Abdourahman Dia.
William Barr va superviser l'enquête que mène le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie avant la présidentielle de 2016. Lors de ses auditions au Sénat, M. Barr s'est engagé à protéger l'enquête du procureur Mueller. Sous mon mandat, Robert Mueller sera autorisé à mener son travail à terme. En tant que ministre de la Justice, mon allégeance ira à l'état de droit, à la Constitution et au peuple américain, a-t-il écrit dans une déclaration préalable à la procédure de confirmation de sa nomination. Mais la sénatrice démocrate Dianne Feinstein a dit craindre que William Barr cherche à tirer des conclusions avant de connaître les faits. Il avait rédigé l'an dernier un document de 19 pages dans lequel il critiquait la manière dont Mueller menait ses investigations. De nombreux sénateurs démocrates redoutent aussi que le nouveau patron de la justice américaine refuse de rendre publiques les conclusions de l'enquête. William Barr, nommé par le président Trump, a déjà assumé ses mêmes fonctions entre 1991 et 1993 sous la présidence de George Bush père.
En Haïti, le président Jovenel Moïse est sorti hier soir de son silence après une semaine de manifestations violentes réclamant sa démission. Dans une allocution diffusée par la télévision d'État, il a déclaré « Je ne laisserai pas le pays aux mains des gangs armés et des trafiquants de drogue ». Monsieur Jovenel Moïse s'exprimait en créole. Il a rompu son silence au lendemain d'affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants dans le centre-ville de Port-au-Prince. Au moins 7 personnes ont été tuées depuis le 7 février. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Nissan va investir 160 millions de dollars pour l'implantation de sa première usine en Algérie, dénommée Groupe Asnawi Automotive. Ce projet devrait générer 21 000 emplois. La première production est prévue pour le premier semestre 2020 avec une capacité initiale de 63 500 véhicules légers par an. Nissan veut porter sa production à 200 000 véhicules par an à l'horizon 2022 et renforcer sa présence en Afrique où il est déjà implanté en Égypte, en Afrique du Sud et au Nigeria. Aker Energy, filiale de la compagnie pétrolière norvégienne Aker, prévoit de développer le gisement de pécan en eau profonde au large du Ghana. La première production est prévue pour la fin de 2020 ou au début de 2021. Une récente évaluation avait confirmé des ressources de 450 millions à 550 millions de barils. Cela devrait satisfaire les ambitions d'Aker d'augmenter sa production totale de pétrole à plus d'un million de barils de pétrole par jour d'ici 2025. Pour finir, le Burundi bénéficie d'un don de 27,5 millions de dollars du Fonds international de développement agricole. Le projet, d'un coût de 101 millions de dollars, a pour objectif de réduire la malnutrition infantile et contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de 235 000 ménages. Il va se porter sur l'élevage du petit bétail, la pêche, l'aviculture, l'apiculture, le riz et le lait dans 5 provinces, selon Ecofin.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal et le Mali se préparent pour la finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, le Mali affrontera le Sénégal en finale ce dimanche à 15h temps universel au stade Sénou Kounthié de Niamey. Une rencontre décisive pour les deux formations qui se retrouvent pour la deuxième fois après leur premier match en phase de poule. Depuis Niamey, nous retrouvons Siaka Traoré, notre envoyé spécial sur place.
Avec la meilleure attaque, 10 buts marqués et la meilleure défense, un seul encaissé. Le Sénégal est sur papier l'équipe favorite de cette finale. Les Lionceaux retrouvent les Aiglons du Mali qu'ils avaient déjà battus en match de poule. Toutefois, pour leur entraîneur, la finale est une autre réalité puisque les compteurs sont remis à zéro. Youssouf Dabo.
Ce sera un match différent parce que c'est une finale. On les avait battus sur le premier match et après ce match, j'avais dit que le Mali ira loin dans ce championnat parce que je les ai vus jouer, donc je connaissais la qualité de cette équipe. Ce sera une finale très difficile, une finale n'est jamais facile. Voilà, nous on se prépare de notre côté et puis on verra ce que ça va donner. Ce qui est important, c'est ce que nous allons proposer.
Le coach du Mali, Mamoudou Kané Dimourlé, reconnaît qu'il va en découdre en finale avec un adversaire de taille affronté à maintes reprises. Et de toute façon, la finale pour lui est un bonus car l'objectif est déjà atteint.
Ça n'a pas été facile, mais c'est la somme du football. C'est prévu pour 5 matchs. On a eu les 5 matchs. On a préparé comme ça. Et Dieu merci.
Que le bon Dieu nous accompagne, que le bon Dieu nous guide. Amen.
À propos des 5 matchs à cette phase finale de la CAN U20, il s'agit notamment des 3 matchs de la phase de poule, la demi-finale et la finale. Il faut préciser qu'avant cette rencontre, le samedi 16 février, va se jouer la petite finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Siaka Traoré à la CAN U20 à Niamey au Niger pour VOA Afrique.
Mauvaise soirée pour Arsenal en Ligue Europa.
Oui, hier, les Gunners sont perdus 1-0 contre le Baté Borisov en Biélorussie lors du match aller des 16e de finale. Arsenal devra attendre le match retour le 21 février à l'Emirates Stadium pour espérer inverser la tendance. Sur le terrain de la Lazio Rome, Wissam Ben Yedder a permis au Séville FC de l'emporter. Les autres Sévillans, ceux du Bétis, ont aussi fait une bonne affaire à l'extérieur en allant arracher le 3-3 à Rennes. Sans son buteur vedette Mauro Icardi, pays écarté du groupe, l'Inter Milan a fait le minimum en allant s'imposer 1-0 en Autriche contre le Rapide Vienne. Autre victoire à l'extérieur, le Benfica Lisbonne a battu Galatasaray sur son terrain 2-1. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
3 matchs seulement, Atlanta et New York 91-106, la Nouvelle-Orléans et Oklahoma City 131-122, Orlando et Charlotte 127-89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Scrutin présidentiel demain au Nigeria, c'est l'heure des derniers préparatifs pour la commission électorale et d'autres organisations de la société civile qui doivent veiller au bon déroulement de ces élections. Abuja, la capitale, abrite un centre d'analyse des élections pour lutter contre les fausses informations ou fake news avant, pendant et après le vote. Les détails avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le centre fournira une analyse précise et en temps réel des événements qui se déroulent avant le jour du scrutin et durant la période post-électorale de manière systématique. Juliette travaille avec le Centre pour la démocratie et le développement.
Et nous avons créé le centre pour collecter les informations, pour les recevoir et les vérifier et clarifier ça pour le public.
Au Nigeria, les médias sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de l'information, notamment en période électorale. Comme lors des élections de 2015, les rumeurs, des mensonges et la désinformation pourraient se propager à travers les médias sociaux. Djibril Ibrahim est l'ancien directeur du Centre pour la démocratie et le développement.
On a pensé que les processus électoraux au Nigeria deviennent de plus en plus compliqués. Il y a tellement de facteurs qui jouent et il faut avoir un centre où il y a des analystes de très haut niveau qui peuvent suivre ces processus électoraux.
Une douzaine d'analystes provenant d'universités de la société civile ont été recrutés pour gérer ces centres. Ils vont travailler avec des observateurs déployés sur le terrain. Objectif, leur permettre de recevoir des estimations exactes des votes dans les différents bureaux de vote à travers le pays et procéder à une compilation parallèle des résultats provisoires reçus dans chaque bureau de vote. Djibril Ibrahim.
On fait ce qu'on appelle le comptage parallèle. Et là, on travaille avec d'autres groupes d'observateurs pour comparer quelles sont les tendances dans chacun de ce qu'on appelle wards du pays.
Du côté de la commission électorale, tout semble être prêt pour le scrutin du samedi, notamment le déploiement du matériel électoral. Plus de 800 000 agents électoraux ont été déployés par la CENI. En plus, des observateurs nationaux et internationaux sont en train de se déployer dans les 36 États du pays. Précision du porte-parole de la CENI, Aliou Bello.
We have domestic and international. For the domestic, we have 119.
Nous avons des observateurs nationaux et internationaux. Au niveau national, il y a 119 groupes d'observateurs. Et à l'international, il y a jusqu'à 35 groupes d'observateurs parce que ce nombre peut augmenter. Mais avant de clore le nombre, nous allons travailler avec le nombre déjà présent sur le terrain, c'est-à-dire 35 groupes.
Les deux principaux candidats, le sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, vont voter chacun dans son état d'origine. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Suite de la série de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagué, sur les attentes des populations sénégalaises à la veille de la présidentielle du 24 février. Aujourd'hui, la santé, les doléances restent nombreuses, nous dit Seydina. Malgré plusieurs plans lancés par le gouvernement pour un accès facile aux soins.
Le 24 février 2019, les Sénégalais iront aux urnes pour élire un président de la République. Le président qui sera élu aura du pain sur la planche car les attentes sont nombreuses. Quelles sont les doléances en ce qui concerne la santé ? Amad Dem, fonctionnaire, nous dresse la liste.
Tout juste de renforcer les hôpitaux.
de renforcer le plateau médical, sorte que, bon, les gens qui ont les moyens d'aller à l'extérieur pour se soigner restent ici. Il faut aussi revoir aussi les prix parce que c'est trop cher, hein, c'est trop cher. En quelque sorte, du social pour que tout le monde puisse se soigner, quoi. Bon, il faut aussi subventionner les écoles de santé parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'étudiants ici, mais par contre, il y a aussi des étudiants qui ont énormément de difficultés à payer leur scolarité et même les inscriptions. Donc, il va falloir tout revoir pour au moins que le système puisse fonctionner.
La mortalité maternelle reste un défi pour l'État du Sénégal malgré les efforts consentis. Le ratio est de 315 décès sur 1000 naissances. Safia Mansour Thiam, étudiante sénégalaise d'origine mauritanienne, suggère la surveillance du taux de mortalité maternelle et le lancement d'un plan de riposte de la pandémie.
Moi, je pense qu'on doit renforcer les hôpitaux, faire attention et aussi faire tout pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité.
La répartition du personnel de la santé est disproportionnelle. Dakar concentre plus de professionnels de la santé comparé aux autres régions. 39% des professionnels de la santé se trouvent dans la capitale, suivi de Thiès avec 10% et de Kaolack avec 7%. La région de Kédougou concentre seulement 1%. Voilà pourquoi Aram attend du futur chef de l'État le renforcement du personnel soignant.
Tu sais, tu passes 3 ans à faire de formation, tu payes cher, tu sors, tu chômes. Ça, c'est pas bon. Alors que j'ai entendu là-bas, un retraité, on appelle son fils pour lui dire que viens, tu vas remplacer ton père, alors qu'il y a quelqu'un qui a fait son formation 3 ans, avec ses diplômes, on ne l'embauche pas. Ça, c'est de l'injustice. C'est ça que je veux qu'il fasse. Il doit réduire le taux de chômage en prenant les gens diplômés, un homme qualifié à la place qu'il faut.
Le plan national de développement sanitaire 2009-2018 a pour ambition de résorber les problèmes de soins et de santé dans le pays. Malgré les efforts, la réalité aujourd'hui, c'est que les attentes des populations restent toujours élevées. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, le ministre des Affaires étrangères a fourni aux membres du corps diplomatique la version du gouvernement sur les attaques françaises contre une colonne de rebelles dans le nord-est. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar fait le point.
Le chef de la diplomatie tchadienne a fait le bilan de l'attaque de la position des forces gouvernementales le 2 février par une colonne de plusieurs véhicules de rebelles venant du sud libyen. Pour Mohamed Zen Chérif, ce sont des terroristes qui ont tenté de faire une incursion en territoire tchadien et dont l'opération conjointe menée par l'armée de l'air tchadienne appuyée par l'aviation française a permis de les anéantir.
Il ressort du bilan exhaustif qu'une quarantaine de véhicules tout-terrain ont été détruits et 19 véhicules dont 16 équipés d'armes lourdes ont été récupérés. D'importantes quantités d'armes légères et de munitions de tout calibre ont été saisies. Environ 250 éléments de la colonne ont été capturés, dont 6 de leurs principaux responsables.
L'opposant historique du régime au pouvoir, Yurongar Ngarledji, se dit stupéfait d'entendre les autorités tchadiennes dire que les 250 rebelles sont capturés alors qu'ils se sont rendus volontairement parce qu'ils n'ont rien à manger.
Mais c'est de bonne guerre. Le gouvernement veut sauver la face parce que ils ont fui devant ces prétendus djihadistes alors que ce sont des Tchadiens qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance d'Idriss Déby qui se sont organisés pour pouvoir prendre le pouvoir par la force. Parce que Déby lui-même n'a-t-il pas dit « Moi, je ne suis pas venu avec le biais d'Air Afrique, donc c'est lui qui veut prendre le pouvoir entre mes mains. Il n'a qu'à utiliser la même méthode. Pourquoi il se plaint aujourd'hui ?»
Pour Mbernoudi Sossen, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, depuis l'escalade de la violence dans le nord-est du Tchad, le gouvernement fait des déclarations à l'emporte-pièce souvent contradictoires.
Tantôt, il parle terroriste, tantôt de l'UFR, de Jefartiman. Mais toutes les guerres du Tchad, il n'y a que la Libye, le Soudan et autres qui servent de base arrière. Là, c'est connu. Dire que ces gens se viennent de la Libye, mais les gens ne nous disent rien de plus. Aujourd'hui, cette énième attaque remet sur le tapis la question de Diallo. Ça nous surprend que le Tchad, qui combat toute forme de terrorisme à l'extérieur, ne soit pas capable de juguler le mal et fait appel à la France. La France n'a aidé que ce régime.
Le Tchad est le premier pays à combattre les terroristes les plus redoutables du Nord Mali, aux côtés de la France, et donc il est normal qu'elle réponde à l'appel du Tchad dans cette situation, estime le chef de la diplomatie tchadienne, Mohamed Zen Ousmane Chérif.
La France n'a pas soutenu un régime, ni un parti, encore moins un président. Elle a aidé un État ami confronté à un ennemi organisé, armé et financé depuis l'étranger pour tenter de prendre le pouvoir par la force.
André Kodma Djingar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Pour terminer, les insectes, oui, participent à plusieurs processus qui permettent la vie sur Terre, mais selon un nouveau rapport, ils sont en train de disparaître, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, d'autant que les hommes, de plus en plus, se nourrissent d'insectes. Le point avec Chérubin Dorsil.
Plus de 70 études sur les insectes suggèrent que les pressions humaines font chuter les populations d'insectes d'environ un quart par décennie. Max Barclay est entomologiste au Musée d'histoire naturelle de Londres.
Certains de mes collègues l'ont comparé à jouer au Jenga. Vous savez, vous déplacez des blocs de la tour Jenga et tout semble aller pour le mieux, puis vous enlevez un bloc et tout dégringole. La perte des espèces, c'est une pareille catastrophe car nous ne savons pas ce que font ces blocs et nous ne savons pas que d'autres espèces en dépendent.
Les insectes sont les créatures les plus nombreuses et les plus variées sur Terre. Ils représentent plus de la moitié de tous les organismes vivants sur la planète. Ils rendent la vie sur Terre possible à bien des égards. Par exemple, les abeilles et les papillons participent à la pollinisation des fleurs et de nos arbres. Ils nourrissent toutes sortes d'animaux et également les humains. Et les insectes jouent un rôle essentiel dans la décomposition de matières organiques, des feuilles et même des cadavres. Ils disparaissent à cause de l'activité de l'homme, l'agriculture industrielle, l'utilisation des pesticides et la pollution. Pour Mark Wright, du Fonds mondial pour la nature, ne rien faire n'est pas une option.
Pour un grand nombre des produits que nous mangeons, le transport du pollen a été effectué par des insectes. Imaginez un monde où ce processus n'a pas lieu, où nous devons faire le transfert du pollen à la main. Vous imaginez le coût astronomique parce que les insectes ne sont pas là pour faire le travail gratuitement. Si vous parlez de culture vivrière, essayez simplement d'imaginer l'ampleur des dégâts.
Toutes ces études ont été menées dans des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les chercheurs n'ont pas les données pour recenser et répertorier toutes les espèces d'insectes dans les régions tropicales. Ils prédisent tout de même que toutes les espèces pourraient disparaître d'ici un siècle. C'est sans compter avec la créativité de l'homme. La banlieue de Denver au Colorado abrite le Rocky Mountain Micro Ranch. C'est l'unique ferme d'insectes comestibles. Wendy Lou McGill a fondé son entreprise en 2015. Elle produit près de 275 kilos de grillons et de verres de farine par mois. Au moins 3 douzaines d'entreprises élèvent des insectes destinés à l'alimentation humaine ou animale aux États-Unis. Selon la FAO, nourrir le monde par les protéines de bœuf ou de poulet n'est pas durable. La protéine des insectes est plus tenable. Elle est de haute qualité et contient des minéraux essentiels comme le calcium et le fer. Les vers comestibles, les larves d'insectes offrent tout cela, plus des graisses utiles pour le développement du cerveau. Les insectes font déjà partie de l'alimentation dans de nombreuses régions du monde. Sur les marchés de Kinshasa, les vendeurs ont des assiettes de grillons vivants capturés dans la nature et de grands bols de larves de charançons africains. Ces insectes sauvages sont abondants à certaines saisons. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde mangent des insectes chaque jour. Ici aux États-Unis, la Food and Drug Administration a confirmé que la consommation de grillons et de vers de farine est sans danger, mais de nombreux Américains restent sceptiques.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des maladies des rats.
Les rats sont des organes qui aident à éliminer les déchets et l'excès de liquide dans l'organisme. Les maladies rénales font partie des maladies chroniques les plus négligées dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Alé Marie-Patrice, néphrologue au Cameroun, et nous dira comment faire pour entretenir ses rats.
Nous écouterons le témoignage d'Alain, malade d'insuffisance rénale. Il nous parlera de sa vie de malade et de son traitement.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30. Temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.